d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Thierry, bonjour Thierry.
Bonsoir.
Avec Ludo qui va bientôt arriver et bien sûr Claude à la technique. C'est Gilles au micro, bien sûr. Alors, avant la fin du monde, nous allons quand même vous parler de la table ronde sur les droits sociaux qui s'est déroulée le 4 décembre. Vous avez aimé 2012 avec le chômage, la pauvreté et la crise. Vous allez adorer 2013 avec la crise, le chômage et la pauvreté. Nous parlerons également de l'exil fiscal, la lutte contre la pauvreté en Belgique. Et bien sûr, Florange, les actualités de Florange qui continuent, bien sûr, on en parlera dans cette émission. Et pour commencer, je vous laisse avec Mimouna Adgam qui nous parle de la table ronde sur les droits sociaux. Voilà, donc Mimouna Adgam, qui était donc à la table ronde sur les droits sociaux, qui va nous parler bien sûr de ses droits, de savoir si effectivement la pauvreté continue en France ou elle doit s'arrêter. Évidemment, avec le RSA, le RMI, les chômeurs non indemnisés, etc., ça fait beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de gens sans emploi. On compte 7 millions de travailleurs pauvres, on compte à peu près 3 millions de chômeurs, sans parler des RMIs et des RSAs, donc ça fait beaucoup de monde. On écoute maintenant cette intervention.
Maintenant, je donne la parole sans plus tarder à notre amie, Madame Mimouna Adjam, porte-parole d'Africa 93, qui, elle, vit dans une cité à la Courneuve et va nous parler de l'accompagnement des femmes dans une société, dans une cité populaire, mais elle ne veut pas, ils ne veulent pas, l'association se substituer au pouvoir public, aux institutions. À toi la parole.
Merci, et merci à toi encore d'être invité, merci à toutes et à tous de nous faire. Voilà, comme elle m'a demandé de parler d'accompagnement vers l'autonomie des jeunes femmes précaires, il y a plein de choses hein, dans cet intitulé, il y a l'accompagnement, il y a l'autonomie, il y a les jeunes, il y a les précaires. Donc réfléchir à par quoi on peut commencer, et moi immédiatement, le malheur vient de le dire, c'est que pour nous aujourd'hui dans notre association, parler d'accompagnement social tout court, ça renvoie d'abord à ce que devraient être des réponses de l'État et des réponses institutionnelles qu'on n'a pas spécialement dans ce qu'on appelle de manière élégante les quartiers populaires, et puis quand ça les arrange les quartiers difficiles, et puis vous connaissez tout le reste quand il faut parler des banlieues. Alors moi, je suis en effet dans une association qui existe depuis 25 ans, en Seine-Saint-Denis, qui a démarré à la Courneuve et qui s'étend un peu aujourd'hui dans d'autres villes, à Saint-Ouen, à Perrier, et donc à la Courneuve. Et nous, en tout cas, depuis 25 ans, et je peux même remonter à Audal, c'est que toutes les politiques publiques qui ont été faites aujourd'hui pour lutter contre la précarité, pour lutter contre la pauvreté, le fait que nous, on ne dépend pas toujours du droit commun au niveau du gouvernement, puisqu'on a mis en place ce qu'on appelle la politique de la ville. Mais en fait, dès qu'on a un problème, il faut qu'on se retourne dans la politique de la ville, ce qui est une des premières discriminations à ce que je pense, en tout cas, dans le traitement de social des populations qui vivent en banlieue. Et voilà, le bilan que nous, on fait dès maintenant, et ça remonte à plus de 25 ans, je dirais que c'est tout simplement au meilleur des cas, on a voulu accompagner, traiter, gérer pour éviter un peu, on va dire, les explosions sociales, les émeutes, tout ce dont ils n'ont pas envie, tous les gouvernements, je veux dire, tous les gouvernements qui se sont succédés, de gauche comme de droite, et surtout, en fait, pour nous, toutes ces politiques publiques qui ont été menées jusqu'à maintenant, moi je le dis au nom de mon association, ça a été tout simplement une tentative de mise au pas des pauvres en France et plus particulièrement dans ce département de la Seine-Saint-Denis qui, vous ne savez peut-être pas, vit d'énormes discriminations déjà par rapport à l'accès aux droits tout court. Alors moi, par rapport à la précarité, c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui pour dire peut-être qu'on est au seuil de la pauvreté. Et c'est vrai que la précarité telle qu'elle a été pensée par beaucoup de gens encore aujourd'hui, je suis tombée sur une phrase de Madame Parizeau, qui est la patronne du MEDEF, et qui a dit après tout, la précarité, pourquoi pas, on est bien, aujourd'hui tout est précaire dans la vie. Il y a une précarité dans la vie, dans la santé, dans l'amour, alors pourquoi pas le travail? Ben, merci Madame Parizeau de vous inquiéter de nos états d'âme amoureux, de santé, mais nous on sait parfaitement que quand elle parle comme ça, c'est que ça renvoie à des termes qui lui sont très chers à elle et au patronat français, à savoir c'est la question de la mobilité, la question de la flexibilité, mais c'est plus de ça qu'elle a envie de parler, et elle met ça sur le dos de certains états naturels. Il y a ceux qui pensent que la précarité, c'est quelque chose qui est quasiment nécessaire et obligatoire, notamment pour les jeunes, en ce qui concerne la précarité des jeunes, puisque de toute façon, ils ont au moins un pied dans le monde du travail, et même si leur entrée dans le monde du travail, elle se fait par des petits boulots, par de la série, c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir un pied dans l'entreprise, et après, en grandissant, ils connaîtront peut-être une stabilité dans le travail, mais personne ne se soucie de l'avenir et du devenir de ces jeunes. Et puis, il y en a, comme nous, qui sommes ici aujourd'hui, qui pensent que la précarité, c'est un processus inégalitaire. Et pour ça, je voudrais simplement renvoyer au dernier rapport du Secours catholique, qui paraît chaque année. En tout cas, on ne va pas accuser le Secours catholique d'être des dangereux bolcheviques. C'est le Secours catholique, mais c'est en même temps le Secours catholique qui le dit. Le Secours catholique, moi j'ai relevé quatre choses que j'ai retrouvées en tout cas dans mon quartier, c'est que la précarité elle s'installe durablement et qu'elle se durcit. Aujourd'hui, la précarité, c'est aussi le cumul de plusieurs précarités dans l'emploi, dans le logement, dans la santé, et ce qui vient après, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais vous savez, si les femmes deviennent précaires, c'est le divorce, c'est la séparation avec la famille. Ça, pour nous, ce sont des causes qui viennent après, qui sont secondaires et qui aggravent en effet cette précarité, mais sur l'origine de la précarité, c'est bien évidemment cette question-là de ce cumul qu'on retrouve au niveau de l'emploi, du logement, de la santé et de plein d'autres choses. La précarité, elle se féminise. C'est aujourd'hui, tout le monde, plus ou moins les gens sérieux, reconnaissent que la précarité, elle touche massivement les femmes, puisque dans le dernier rapport du Secours catholique, c'est 57% des femmes, des adultes qui sont en situation de précarité, qui sont des femmes. Et je peux vous assurer que dans nos quartiers à nous, ça approche plutôt des 80% dans cette précarisation, cette féminisation de la précarité et de la pauvreté. La troisième chose qui est pointée par le Secours catholique, c'est que toutes les dépenses aujourd'hui qui sont contraintes, qui sont les dépenses de loyer, les dépenses d'énergie, aujourd'hui, c'est une partie importante du revenu des familles, en tout cas dans ces quartiers, et qui nous amène aujourd'hui, le Secours catholique reconnaît au niveau national 60% de la payée de loyer. Moi, si vous voulez, dans ma vie, à la Courneuve, c'est plutôt 74% de la payée de loyer, et c'est maintenant quelque chose qui est structurel, c'est pas un truc épisodique, non. Et le travail qu'on a à faire, notamment par rapport à ces impayés de loyer, c'est, je pourrais revenir dessus après, c'est quelque chose d'énorme. Et puis, une quatrième chose qui moi m'intéresse aussi, que je constate dans notre travail, c'est que l'accompagnement social aujourd'hui des pauvres et des précaires se privatise. Alors, quand on dit se privatise, ça veut dire que traditionnellement, un état social, on a des assistantes sociales, des travailleurs sociaux qui travaillent dans les centres communaux d'action municipale pour l'action sociale, qui dépendent du conseil général, le Secours catholique le dit que aujourd'hui c'est plus de 50% de gens qui sont envoyés de la part des services sociaux, qui sont envoyés vers le Secours catholique et vers les associations. Et quand c'est une première prise de contact, quand c'est une première demande des gens, ça monte à 75%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui vivent notamment dans ces quartiers sont doublement exclus. Ils sont exclus parce qu'ils n'ont pas accès au travail, au logement, de manière normale, mais en plus, ils sont quasiment exclus des aides légales, des aides sociales légales, puisque, voilà, on ne sait pas pour jeter la pierre aux travailleurs sociaux, mais c'est une réalité, c'est qu'il y a de moins en moins aussi de travailleurs sociaux, voilà, c'est qu'on retrouve tout sur le groupe, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se tourne vers nous, les associations, parce que nous, on est vu comme étant une espèce de palliatif aux carences de l'État et du gouvernement, et on devrait répondre à toutes les demandes de logement, aux demandes de travail. Je vais vous donner un exemple. Moi, sur ma ville, sur deux villes, on entre à terme aux statistiques, sur deux villes, sur la Courneuve et sur Saint-Ouen, deux personnes salariées dans l'association, sur ces deux villes, 1145. Donc, les personnes reçues dans nos différentes permanences qui doivent traiter les problèmes de CNE, les problèmes d'accès aux droits d'une manière générale, les problèmes des litiges avec les opérateurs téléphoniques, les problèmes de la retraite, le problème du surendettement qui devient quelque chose qui s'amplifie énormément, parce que les gens s'endettent, et à un moment donné, ils n'arrivent plus à payer. Et je dirais, la question de l'emploi et la question du logement qui arrive à quasi égalité aujourd'hui dans la demande. Pendant longtemps, ça a toujours été l'emploi qui était dominant, on va dire, les gens venaient pour du boulot, mais aujourd'hui je peux vous dire que nous, dans nos statistiques, la question du logement, elle est quasiment au même niveau que cette question de l'emploi. Elles essaient toujours aussi de trouver des solutions aux problèmes que vivent leurs quartiers. Et nous, les associations, la réponse aujourd'hui du gouvernement, on est mis en concurrence entre les associations, puisque à chaque fois maintenant, il n'y a plus de demande de subvention, par exemple, sur des projets de fonctionnement, c'est des demandes de subvention, on va venir les appeler à projet, des marchés, comme eux ils appellent. Et franchement, une association qui ne connaît pas ce vocabulaire, une association qui ne sait pas comment s'y prendre, elle se trouve vite. Voilà. Il se trouve que nous, on a essayé de s'adapter à cette nouveauté, mais on n'arrive pas tout le temps. À titre d'exemple, quand même, je ne dis pas ça parce que c'est mon association, en 5 ans, on avait un budget de 180 000 euros. En 5 ans, le budget a moins 45 000 euros. Moi, je veux bien qu'on nous dise la volonté des politiques publiques de sortir des gens de la précarité et de la pauvreté. Autre chose par rapport aux linguistiques. Vous savez que nous, on aime bien, on dit on est un département monde, on accueille des gens qui viennent des quatre coins de la planète. Simplement, ces gens qui viennent, bien sûr, ils sont les bienvenus. En général, s'ils viennent dans notre département, c'est qu'il y a de la famille pour les accueillir, il y a des gens. Et puis, ils savent aussi, dans ce département, il y a une forte tradition d'accueil. Le problème, c'est que les maires dans notre ville, ils n'arrivent plus à gérer la question, par exemple, linguistique. Dans notre département, on a perdu ces 5 dernières années 600 000 heures de formation linguistique qui concernaient majoritairement des femmes immigrées, notamment les primo-arrivantes. Et voilà, donc c'est aussi des femmes qui sont dans un projet professionnel, qui veulent travailler, puisque très rapidement, elles se rendent compte que de toute façon, elles ne vont pas s'en sortir. Donc on nous met en concurrence. On a des difficultés pour trouver des financements et des subventions pour pouvoir aider les populations les plus pauvres. Et puis, je ne t'apprendrai rien du tout. Qui est-ce qui vient et qui tire là? C'est les religieux. Alors, eux, ils y vont, parce que ça se passe comme ça s'est passé dans l'Angleterre de Thatcher, où il y avait, on a tout cassé les services publics, où il y avait des tout. Qui est-ce qui est venu? Les religieux. Nous, c'est ça, depuis presque 20 ans, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Hein. Les religieux, voilà, que ce soit charité chrétienne ou charité musulmane, c'est facile, on aura organisé une chambre pour tous dans le quartier, même si c'est que une fois par an, et c'est eux qui vont tirer vers les gens en disant, vous voyez, nous, on on est là pour répondre à la place de l'État. Donc voilà, il y a aussi ce danger, parce que quand je parle des religieux, eux, quand ils font du caritatif, c'est aussi extrêmement très moral, hein, parce que ça s'accompagne aussi de toutes les injonctions dont on a parlé en ce qui concerne les femmes. Ben, eux, ils ne s'en privent pas. Hein. Ils ne s'en privent pas forcément au travail des femmes, qui sont accusées de, voilà, de tous les maux de la terre, la baisse de l'autorité du père, les enfants qui deviennent délinquants, la toxicomanie, tout ça, c'est la place des femmes qui travaillent. Donc, quand on a en face de nous des gens qui aident financièrement, parce que c'est des gens qui aident, même si c'est de temps en temps, ils font aussi leur travail politique et ils font aussi le travail sur les mentalités. Bon, déjà, nous, on a du mal, mais eux, ils arrivent à marquer des pas, parce qu'en tout cas, ils sont beaucoup plus présents sur cette question de. Voilà, eux, c'est plus de l'assistanat, on va dire, c'est même pas de l'accompagnement social. Alors, moi, je viens revenir maintenant, je suis complètement ivresse, sur la question de la précarité des jeunes. Alors, sur la question de la précarité, pour moi, ça a des racines. C'est d'abord l'école. L'école française, dont on est si fier, oui, on est peut-être là, l'école française, elle est extrêmement sélective. Elle est sexiste, puisqu'elle oriente les filles, voilà, de soi dans des trucs bien établis selon eux. Mais par rapport à la sélection sociale, aujourd'hui, très concrètement dans nos quartiers, c'est que l'on voit que l'école ne fait que reproduire les inégalités sociales, et voilà, alors que l'école, normalement, devrait en tout cas réduire ces inégalités, et quand on a un père ou une mère qui a été ouvrier ou femme de ménage, si on va à l'école, c'est parce que, en tout cas, nos parents, c'est ce qu'ils pensaient, hein, et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui le pensent aujourd'hui, parce qu'on a quand même envie de faire autre chose. Donc, il y a le problème de l'école. Et même lorsqu'il y a, parce qu'il y a quand même, dans nos quartiers, on a, voilà, les quartiers produisent aussi une certaine élite qui est majoritairement féminine, et même lorsque ces filles diplômées, il y a des filles diplômées, elles n'arrivent pas à trouver de travail. Moi, j'ai l'exemple d'une mère de famille qui a énormément investi dans la scolarité de ses filles, une a un DESS de droit, l'autre est psychologue, et celle qui a un DESS de droit, elle travaille à Disneyland, et celle qui a fait son diplôme de psychologue, elle travaille comme agent d'accueil à temps partiel à l'EDF. Donc vous voyez que même pour ceux et celles qui ont fait des efforts, les parents se sont sacrifiés pour que leurs enfants s'en sortent, et bien on continue de reproduire ces inégalités. La deuxième chose, par rapport au fonctionnement du marché du travail tel qu'il existe aujourd'hui, ça aussi, ça joue contre les jeunes et donc contre les jeunes femmes, puisqu'aujourd'hui, l'entrée dans le marché du travail, ben, c'est un CDI, c'est l'intérim, l'intérim. Alors nous, on a un grand employeur sur le département, c'est les aéroports de Paris et Roissy. Alors, ils ont carrément le pôle emploi là-bas qui est installé sur la plateforme à Roissy. C'est que de l'intérim. Que de l'intérim. Il n'y a pas autre chose. Il y a des agents d'intérim qui sont installés sur la plateforme. Et quand tu as un garçon, ah, tu veux faire un conseiller, on va t'envoyer dans le tri du courrier. À toi, tu es une fille, ah ben super, serveur pour, vous savez, mettre les plateaux repas dans les avions et tout, super, toi ça va t'aller très bien. Donc c'est des. Moi j'ai vu des jeunes qui avaient des contrats quelquefois de quelques jours, voilà. Et d'abord ces jeunes-là, ils ont leur CV qui est enregistré chez nous, et à chaque fois, voilà. Et quand ils viennent parce qu'ils ont une autre proposition d'une autre entreprise, ils viennent en catastrophe chez nous en disant, t'as mon CV, rajoute que j'ai fait deux jours ici, que j'ai fait un jour par là, ou j'ai fait trois jours par là. Voilà, donc le fonctionnement du monde du travail aujourd'hui, il joue, ça c'est, voilà, contre les jeunes. Et puis la protection sociale. La protection sociale, qu'elle fonctionne aujourd'hui. Le RSA, même le RSA actif, il faut avoir 25 ans pour pouvoir le toucher. Donc ça, c'est quand même une grosse anomalie. Les jeunes, ben voilà, parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont jamais travaillé avant, donc pas d'indemnité voilà, de chômage. Et puis, pour les jeunes qui restent le plus longtemps possible à la maison, les prestations qui sont servies par la carte, de toute façon, sont versées aux familles.
Je l'arrête ?
Non,
d'accord. En fait, je vais l'arrêter. En fait, voilà, je voulais dire qu'aujourd'hui, le modèle dominant quand même, parce que pour moi, le travail, j'ai dit tout à l'heure, le travail et la question de logement, c'est les deux principaux leviers quand même pour lutter contre la précarité et la pauvreté. Aujourd'hui, sur la question de l'emploi, les filles, elles ont en gros la possibilité de travailler au prix comme un beau caissière, parce qu'elles savent quand même lire et écrire. Et en face de ça, il y a leurs mères qui aujourd'hui sont massivement dans les sociétés de nettoyage. Vous savez, toutes ces femmes invisibles que nous rencontrons quand nous on a travaillé, elles ont fini une partie de leur journée de travail, qui repartent travailler le soir pour nettoyer les bureaux et qui souvent font des heures de cantine à midi, voire quand elles trouvent un pharmacien ou un médecin chic, elles peuvent aller faire une heure de ménage, elles y vont. Et voilà le modèle hein, quand même dans lequel aussi grandissent les filles dans les quartiers. Et puis ces derniers temps, on s'est rendu compte qu'il fallait du personnel pour surveiller l'entrée et la sortie des écoles. Donc c'est ça, ben voilà. C'est des femmes, c'est des filles, donc nous on a discuté avec des filles qui en fait sont 4 heures pour la journée, fractionnées en 4 ans. On n'a plus de vie, on n'a plus de vie, voilà, quand on a 20 ans et qu'on commence sa vie comme ça. Donc voilà, je vais finir très vite pour dire que. Voilà, le travail reste quand même la priorité dans les quartiers, et que ce que je voulais dire, c'est que on croit souvent, parce qu'on est féministe, et puis voilà, on croit toujours que l'ordre moral qui sévissait dans les années 60-70, qui disait marie-toi ou travail, c'est fini, non, c'est pas fini. Voilà, dans nos quartiers, c'est pas du tout fini, parce que justement, c'est beaucoup plus subtil. On ne viendra pas dire à une femme, écoute, que le boulot ne sert à rien du tout. Non, on va venir, on va dire, oh là là, on va prendre sur l'angle de la pitié. Hein, mais tu sais, qu'est-ce que tu vas être fatigué quand même de travailler comme ça, partir, revenir, ah putain, un bébé, en plus, qu'est-ce qui va te garder? Oh là là, mais c'est difficile. Je ne crois pas que ça serait mieux de quoi d'arrêter, parce que tu t'en sortirais mieux avec le RSA ou avec les allocations familiales. Voilà, mais malgré tout, je dois dire que les femmes, elles résistent. Parce que les femmes, dans nos quartiers, ce sont des femmes aussi qui veulent travailler pour avoir leur réelle autonomie financière, qui ont marre de demander à leur mari pour aller acheter du pain, pour aller acheter ceci. C'est des femmes qui veulent vraiment travailler. Mais que vraiment, c'est un appel quand même aux politiques publiques. Ces femmes, on les incite de toute façon à cet ordre moral, mais on en parlait tout à l'heure du congé parental. Moi, je suis pour, mais archi pour qu'on paye un congé parental à condition qu'on oblige les pères à en prendre une partie sur le congé parental. Parce que sinon, ça va faire exactement l'inverse. Une femme qui travaille dans ces conditions, qui va arrêter un an ou plus, en général, elle ne reprend pas le travail. Elle ne reprend pas le travail pour des raisons physiques, parce qu'elle est fatiguée, parce que... Voilà. Donc, je vais voilà, vraiment, vraiment, je vais finir. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure. La question du logement aussi, il ne faut pas qu'on oublie cette question du logement, parce qu'aujourd'hui, dans nos villes, c'est des 3000, 4000 demandeurs de logement pour une offre de 150 logements à 200 logements par an. Donc, on va les mettre où, les jeunes? Et notamment les jeunes qui veulent alors qu'ils sont, qui font partie souvent des priorités, qui veulent la décohabitation pour quitter les parents. Mais dans les faits, on avait dit dans beaucoup de villes de notre département, un an pour avoir un logement. Aujourd'hui, c'est 3 ans, 4 ans pour qu'un jeune puisse avoir un logement et quitter ses parents. Donc voilà, je vais m'arrêter et puis je vous fais grâce.
Et oui, c'était Gottener, donc, et juste avant, c'était la table ronde sur les droits sociaux avec une intervention de Mimouna Adjam. Très bien, donc on reprend cette émission. Vous êtes bien toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Je suis avec Ludo. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Et également avec Thierry.
Bonsoir.
Voilà. Donc on va recommencer cette émission qui donc déjà il est 9h-2, il vous reste 2 minutes pour écrire vos mémoires, chers auditeurs auditrices, puisqu'à 9h normalement c'est la fin du monde, mais non, nous on n'y croit pas trop hein. Voilà. Alors, on va reprendre cette émission avec, évidemment, 2012 et 2013, hein, puisque vous avez bien sûr aimé 2012, étant donné qu'en 2012, c'était le chômage, la pauvreté et la crise, et qu'en 2013, c'est la crise, le chômage et la pauvreté. Et en 2014, Ludo, ce sera pareil, peut-être.
Mais écoute, non, effectivement, personne n'est très optimiste, puisque, effectivement, l'OFCE a publié ses prévisions de chômage pour l'année prochaine. Donc, vous me direz, c'est très anticipé, mais enfin, quand même, ils sont basés sur des tas d'indicateurs. Donc, ils estiment à 265 000 chômeurs supplémentaires pour 2013, donc ce qui porterait le taux de chômage à 11%. Sachant qu'en fait, comme on s'en est tous aperçus, malheureusement, le chômage n'a jamais été aussi haut qu'actuellement, puisqu'il est à peu près 3 millions. Mais surtout, ce qui est enfin très inquiétant selon les statistiques du chômage, c'est les chômeurs de longue durée. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, les effectifs des chômeurs donc de longue durée ont déjà gagné 10% depuis un an, selon Pôle emploi. Et puis, pour ceux qui sont au chômage depuis plus d'un an et de 20% pour ceux qui le sont depuis plus de 3 ans. Vous voyez, donc c'est-à-dire que il semblerait qu'il n'y ait pas de tout simplement qu'une fois qu'on est viré, pour retrouver du boulot, ce soit la croix et la bannière, quoi. Sans parler en fait du taux de chômage des jeunes qui explose, puisque eux, c'est les premiers concernés par. Voilà. Et donc pourquoi finalement 2013 ne sera pas meilleur que 2012, c'est que comme vous avez vu, c'est la politique qui est suivie par Monsieur François Hollande, donc c'est une louche d'austérité. Enfin, on a même envie de dire qu'il va assommer tout le monde avec l'austérité. Donc l'austérité, concrètement, c'est quoi? C'est des plans de coupe dans le budget de l'État. Et donc si la croissance ne repart pas en 2013 ou fin 2013 comme il l'espère, ça veut dire qu'en 2014, il sera encore obligé de faire des coupes. Vous voyez, donc il y aura une espèce de spirale récessive, en fait, qui risque de se mettre en place, sachant que son crédit d'impôt de 20 milliards d'euros, donc sur 3 ans accordé aux entreprises, donc son crédit d'impôt qu'il a accordé sans aucune contrepartie d'emploi, ça le contraindra à couper encore dans le budget de l'État à hauteur de 10 milliards d'euros, tout en augmentant derrière la TVA. Évidemment, l'augmentation de la TVA, c'est pas avant 2014, mais si vous voulez, quand on appelle ça la politique de l'offre, donc c'est bien sympa de en quelque sorte d'essayer de baisser les prix des biens qu'on produit, sauf que s'il y a personne pour les acheter, or en fait on est là-dedans depuis très longtemps, c'est-à-dire puisqu'il y a une baisse des salaires continue, ouais. et qu'à contrario on a effectivement une offre de produits donc un certain nombre apportés qui elle se démultiplie en fait, hein. Ouais. À un moment on arrive à une espèce de saturation, paradoxalement, c'est-à-dire on a presque une crise de surproduction, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les
produits qui ne sont pas achetés parce qu'ils ne sont pas trop chers ou pas. Oui.
Exactement. Et on voit les conséquences déjà sur les marges des entreprises, hein, que c'est le grand débat, c'est-à-dire que les entreprises ne font plus de bénéfices. Rien n'indique qu'en fait, avec le cadeau fiscal, elles pourront de nouveau gagner des marchés, puisque c'est ça l'objectif, sachant qu'au niveau européen, ça va pas très fort, que l'Allemagne elle-même est en crise, et donc de toute façon, pour l'économie française, comme pour les autres économies européennes, il y a un problème de débouchés.
Ouais, mais il faut savoir aussi que Hollande a lancé une phrase mais c'est la crise peut-être en ce moment, mais en 2015, le chômage va diminuer et l'emploi va reprendre.
Oui, s'il arrive à survivre jusqu'à là, 2015,
les promesses n'engagent que ceux qui y croient, a priori, oui. Donc voilà.
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des tas d'économistes qui pensent exactement le contraire. C'est-à-dire que si on cumule les plans d'austérité à niveau européen, je crois que la moitié des échanges, en fait, se font entre l'Europe. Les moitiés des échanges avec l'extérieur, en fait. Hein. Donc ça veut dire que si vous multipliez les plans d'austérité au niveau européen, à un moment donné, il y a des débouchés nulle part.
Ouais, mais on...
Et ce qui veut dire que vous pouvez effectivement, soi-disant, baisser le coût du travail. C'est toujours, aujourd'hui, le coût du travail, voilà, c'est la grande variable. Il n'y a que le coût du travail. Vous pouvez... Alors, bon, là, ça a été fait assez finement parce que finalement, c'est pas tout à fait... il baisse pas vraiment le coût du travail. Mais à l'arrivée, ça change, ça risque de pas changer grand-chose.
Hein. Non, mais en plus, il faut savoir que où il y avait des trucs très forts, c'était la Chine, où la Chine commence à baisser. La Brésil commence à baisser aussi.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on est en train. Alors, bon, la Chine, c'est pas sûr, mais par contre, aux États-Unis, aux États-Unis, ça va pas très fort, en tout cas. Mais le problème, nous, c'est qu'en Europe, c'est encore pire. Je veux dire par là que comme il n'y a eu aucune mesure de relance forte hein, au niveau européen, il n'y a pas de budget, il y a très peu de budget européen. Donc, ce qu'a négocié François Hollande, c'est assez rikiki en termes de relance. Il n'y a pas de relance, il n'y a pas de politique de relance, il n'y a pas de politique monétaire, puisqu'on ne peut pas baisser l'euro de façon à...
Drastique, de façon drastique.
Voilà, de façon à, si vous voulez, à exporter plus. Alors, l'Allemagne a profité de la baisse de l'euro par rapport au dollar au moment de la crise de l'euro. Donc, ce qui lui a permis d'aller très très bien et de continuer ses exportations. Bon, la crise de l'euro passée, l'euro reprend son niveau antérieur, donc s'apprécie par rapport au dollar. Et effectivement, alors ça fait baisser les prix des produits importés, notamment les produits énergétiques qui sont payés en dollars. Donc effectivement, le pétrole, tout ça. Mais en contrepartie, ça veut dire que c'est un frein au commerce extérieur au niveau européen. Et ça, dans un contexte où on a des politiques de rigueur partout en Europe, en fait, la croissance intérieure ne peut pas prendre le relais.
Ouais, et on voit bien ce qui se passe au gouvernement où il a annoncé maintenant, vu qu'il y a la crise, on peut une petite augmentation du SMIC, mais de 3 centimes.
Non, c'est 0,4, c'est pas beaucoup non plus.
Ça fait 3 centimes. Hein.
Voilà. Alors bon, non, mais à côté de ça, il y a eu un mini saupoudrage, comment dire, un semblant de politique de gauche, j'ai envie de dire, c'est-à-dire effectivement.
Non, je pose une question quand même, parce que je trouve qu'il y a un mauvais calcul. Alors, je sais pas comment ils sont accompagnés, ces ministres et ces hommes d'État, par leurs économistes libéraux, puisque effectivement, je pense que pour relancer. Il faut relancer d'abord la consommation, et pour relancer la consommation, il faut payer les gens suffisamment bien pour qu'ils puissent consommer. Alors, ils font tout l'inverse. Donc, effectivement, moins on paye les gens, moins ils consomment. Donc, moins ils consomment, moins les objets qui sont manufacturés sont vendus.
C'est le but de la politique européenne. C'est-à-dire que
Non, mais je suis d'accord.
Je veux dire que c'est tout à fait intentionnel. Il y a un économiste qui est classé à droite et donc qui conseille tout, qui a conseillé les banques pendant des années, donc qui n'est pas suspect d'être bolchevique, hein, qui dit, mais finalement, l'objectif des politiques européennes, c'est d'écraser la demande de façon... à équilibrer la balance des paiements et donc à réduire en fait le déficit extérieur et donc à réduire ainsi la création de dette par le déficit extérieur. Donc c'est pas la même chose que la dette publique hein, ouais. qui est les dépenses de l'État, mais finalement ça se cumule avec la dette publique. Donc il concluait, mais on l'avait déjà dit à certains, il concluait finalement la variable d'ajustement de ces politiques, c'est le chômage. Et donc le chômage, ça signifie que si on reste jusqu'au bout de la logique, il faut s'attendre à un chômage à 30% en Espagne. On est déjà, je crois, à 25 et à 20% en France. Alors en France on n'y est pas encore, mais c'est vrai qu'à la limite vu dans cette optique-là, à la limite, les prévisions de l'OFCE sont encore optimistes.
Mais vous avez vu aussi ce que le gouvernement vient de faire. Il a demandé un prêt à l'Union européenne.
Alors,
ouais, mais ça, non, mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est une logique.
Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est des politiques.
C'est expliqué dans la presse quotidienne, etc., d'une façon par des gens qui sont extrêmement qualifiés, etc. Et qui nous racontent un petit peu leur truc, et puis nous on y croit, et puis on leur donne une sorte de médaille parce qu'ils ont donné des explications qui sont apparemment scientifiques.
Aujourd'hui, je dirais que plus personne ne donne de médaille à personne.
Non, mais je veux dire par là, c'est que ça, c'est une logique. C'est une logique. L'austérité, c'est une logique qui est complètement, effectivement, tu l'as plus ou moins sous-entendu, qui est une logique complètement libérale. Et ça peut s'expliquer, comme tu viens de le dire, sur la balance des paiements, mais c'est quand même, il y a quand même des gens qui vont en crever, parce que donc la logique, pour moi, la logique qui serait une politique logique, ce serait effectivement de relancer la consommation, et pour relancer la consommation, c'est effectivement de donner du travail à plus de gens, de les payer correctement, de réinstaller le CDI pour la confiance, etc. Et après, les gens, quand ils travaillent dans le bonheur, enfin le bonheur, j'exagère, parce que le travail, c'est jamais le bonheur, mais en tout cas, quand ils travaillent d'une façon quiète, si tu veux, mais ils travaillent bien, et donc après, on a des objets qui sont correctement. Parce que quand on travaille avec la pression des patrons, etc., sur le dos, eh ben on déprime, on peut faire des erreurs, et puis finalement, on se fait licencier parce qu'on a fait des erreurs. Donc, ouais. Tu vois.
Bah, je veux dire, oui, mais ça serait bien que ce genre de politique soit décidé au niveau européen, que ça se fasse à un niveau européen.
Ouais,
c'est-à-dire que, ce serait effectivement une excellente idée qu'à un niveau européen, tout d'un coup, on augmente de façon importante les salaires, parce qu'à un niveau européen, on décide que il n'y ait plus de dumping fiscal, puisque ça contribue aussi ça à la baisse des salaires indirectement. C'est-à-dire que si vous, ou au déficit public, si vous décidez de mettre un taux d'imposition sur les entreprises qui est très très bas, bah à la fin, effectivement, vous n'avez pas vous n'avez pas d'aide sociale pour vos populations pauvres. On en reparlera tout à l'heure, mais en France, on est les mieux lotis. Et puis, vous n'avez rien dans les caisses de l'État pour faire de la redistribution,
ouais.
Hein, et y compris pour investir, etc. Donc, c'est un effet pervers au sens où, si on prend les cas de l'Irlande, finalement, ça gonfle artificiellement certains secteurs d'activité. Donc, en l'occurrence, donc en Espagne, et en Irlande, l'immobilier. Certaines entreprises, certains sièges d'entreprises, en fait, qui ne sont que des sièges d'entreprises. Il n'y a pas réellement d'activité productive.
Ouais, il faut savoir qu'on voit du chômage arriver en masse pour deux raisons. Une grosse, c'est que certaines entreprises ont tellement de stocks qu'ils ne vendent plus, ferment les entreprises. Est-ce qu'elles ne peuvent plus vendre? Il y en a qui le font.
En période de crise, c'est vrai que les stocks augmentent. Et que quand les stocks augmentent, effectivement, on n'a pas besoin d'embaucher.
Oui,
et donc on met des gens au chômage partiel.
Même au chômage technique, carrément, chômage.
C'est la même chose.
Au chômage définitif, et on ferme l'entreprise. Est-ce qu'on ne peut plus vendre?
C'est un peu comme les grèves, hein, quand les gens font la grève, finalement ça intéresse les patrons, les grèves, puisque les grèves, quand tu as beaucoup de trucs à vendre, que tu as de la surproduction, quand il y a une grève, les gens qui sont en grève ne sont pas payés. Donc pendant qu'ils ne sont pas payés, les patrons continuent à vendre ce qui est en stock.
S'ils peuvent, s'ils en ont.
S'ils en ont, s'ils ont des stocks. Et après, une fois qu'ils n'ont plus de stocks, ils rentrent en beau. Enfin, les gens arrêtent la grève
et
ils ne sont pas virés, ils reviennent au travail. Donc. En fait, c'est des foutages de gueule, finalement.
Non, mais c'est pas tout le temps le cas, quand même.
C'est pas tout le temps le cas.
Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce type de politique-là, ce qui est un peu curieux, c'est qu'on a finalement, enfin, c'est pas curieux, mais on le sait depuis un moment, mais finalement, ça vise à favoriser éternellement la stabilité du capital, en fait. C'est-à-dire que, en gardant une monnaie stable, on permet effectivement aux capitaux de, soi-disant, se maintenir en France, soi-disant, on permet par exemple, à ceux qui touchent des dividendes de sociétés,
que ce soit
des dividendes fixes, qui est pas, qui s'y retrouvent, en fait. Et donc, c'est une politique qui a sens unique, en tout cas.
Non, mais on voit bien ce qui se passe dans l'automobile, où il y a une pièce qui est faite par une marque d'automobile, elle est vendue pour plusieurs voitures, et qui n'est pas les mêmes marques. Ça, c'est aussi. Il n'y a plus de concurrence là-dessus pour faire des pièces. Maintenant, c'est toi qui fais les pièces et nous, on achètera chez toi.
Mais il y a une sous-traitance, de toute façon.
Oui, mais c'est du foutage de gueule, ça aussi.
Oui, bien sûr.
Parce que ça fait pas embaucher, ça.
Oui, mais de toute façon, l'industrie automobile est sinistrée. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, certains pays de la zone euro s'effondrent, notamment les pays du Sud. Et par exemple, ça fait des débouchés en moins, notamment en Espagne, où les entreprises automobiles ne peuvent plus vendre.
Et en Italie.
Allez, on fait un petit espace musical et on reprend la parole après.
On le connaît depuis la communale, le gars qui est là sur la photo, à la première page du journal, mais on le reverra proximement. De leur saloperie guillotine, un même aussi gentil Fredon.
Et Et oui, c'était les frères Jacques, c'était Sapa, hein. J'aime beaucoup les frères Jacques. Faut se rappeler quand même que sur les quatre, il n'en reste plus qu'un seul, les trois autres sont morts. Voilà, donc paix à leurs âmes, si on peut dire ça comme ça. N'oubliez pas que vous avez encore, bah non, là, c'était pas la fin du monde finalement, on est encore vivant, on est encore à cette radio, hein. La preuve, je parle. Il reste quelques heures, oui, quelques heures, donc écrivez vos mémoires tout de suite, hein. Donc, voilà. On reprend cette émission, c'est Mode d'emploi sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Je suis avec Ludo et Thierry et Claude à la technique, c'est Gilles au micro. On va reparler maintenant évidemment de la pauvreté, puisque nous sommes une émission qui parlons de la pauvreté et de la précarité. Alors il y a eu une conférence sur la pauvreté. Ludo, t'en as quelques mots à dire sur cette conférence?
Oui, bien sûr. Alors, parce que bon, bah, évidemment, on n'a jamais été autant concerné que par pauvreté, enfin dans ce pays et partout en Europe. Donc effectivement, c'était le 10 et 11 décembre. C'était la conférence sur la pauvreté et pour l'inclusion sociale. J'aime bien le « et pour l'inclusion sociale oui. ». Donc c'était une conférence gouvernementale apparemment. Donc c'est bien parce qu'en fait, on a pu avoir dans les journaux pendant quelques temps des gros titres, rappeler qu'il y a des pauvres en France. Et oui, c'est vrai, pour ceux qui ne le savaient pas. Et voilà. Et voilà. Donc évidemment, bon, il fallait pas en attendre des miracles. Mais au moins, bon, disons qu'il y a un constat. Donc, qui est intéressant, et donc au moins on a eu un éclairage là-dessus pendant cette période-là. Donc, je vous renvoie, pour ce que je vais dire, à un dossier qu'a publié Alternative Économique sur la pauvreté et qui est très bien fait en fait. Et donc voilà, mais bon, ce qui est dit, bon, évidemment les spécialistes le savent. Donc, et pour aller vite, alors en fait, vous savez qu'il y a deux façons de calculer le taux de pauvreté. Il y a le taux de pauvreté absolu qui est pris aux États-Unis comme ça, c'est-à-dire qu'on considère que c'est un minimum vital. Mais voilà, on prend pour base un minimum vital en dessous, voilà, on est pauvre. Sauf que en fait, c'est une mesure qui ne prend pas en compte à la fois les inégalités de richesse dans le pays et indirectement le niveau de vie du pays. Donc je sais qu'en France, on a préféré, en France et en Europe, on a préféré prendre une mesure qui consiste à prendre 60% du salaire médian. Donc le salaire médian, c'est, si vous voulez, c'est ce que au-dessus du salaire médian, 50% des gens touchent, de ceux qui sont au-dessus du salaire médian, 50% sont en dessous. Donc là, c'est 60%. Donc voilà, c'est un peu auparavant, on était à 50% du salaire médian. Donc c'était la moitié du salaire médian. Donc ça donne. Alors ça, du coup, cette mesure change légèrement le nombre de pauvres, puisque on compte aujourd'hui 14 avec ce seuil qui est européen. 14 millions pardon, de pauvres en France, hein, et donc qui touchent une somme de 900 euros en fait, 964 euros. Donc voilà, si vous prenez le seuil de 50%, on est à 7,8 millions. Voilà, et on a gardé le seuil de 40% pour parler de l'extrême pauvreté, donc 40% du salaire médian. Ça fait moins de ça fait 400 euros, oui, à peu près. Donc il y a 3,8 millions qui sont concernés par
c'est énorme
voilà. Et ils prennent pas en compte les jeunes.
Justement, alors comment après se répartit la pauvreté, c'est ça qui est terrible. Donc sur la base, hein, des 14 millions, alors évidemment en fait la pauvreté est de nouveau en augmentation depuis 2004. Elle avait baissé auparavant, et en fait elle avait même baissé on a mis en fait des années, hein, tout pendant toute la période d'après-guerre, pour faire baisser la pauvreté via les politiques de redistribution. Bon, on avait quand même réussi à faire baisser le taux de pauvreté jusqu'en 2004. En 2004, il est reparti à la hausse, et évidemment avec la crise, ça s'est absolument pas arrangé. Preuve concrète, hein, que les années 2000 n'étaient pas glorieuses. Hein, avec ces 2% de croissance et des créations d'emplois vraiment minimes, bon, on a quand même un accroissement de la pauvreté. Or là, donc les chiffres, évidemment, la pauvreté a explosé avec la crise. Et sur les 14 donc, millions de pauvres, il faut compter la moitié qui ont moins de 35 ans. Donc ça fait, vous voyez, c'est énorme. Hein. Donc d'abord, ça touche les jeunes, en principe. Ensuite, parmi les jeunes, 20% sont... 2,6 millions sont des mineurs. Ça représente 20% des pauvres en France. Voilà. Parce que, puisqu'en fait, on calcule pas seulement par personne, mais voilà, il faut considérer les gens qui sont concernés dans le minage, en fait. Hein. Donc, et ça, malgré les prestations sociales. Donc, c'est pour tout dire que les allocations familiales, ça règle pas grand-chose hein, quand on parle de fraude aux allocations familiales. Et tenez-vous bien, 22% ont entre 18 et 24 ans. Alors, évidemment, on peut...
Un cinquième, oui. Voilà. Un sur cinq. Ouais.
Exactement. Et alors... Pourquoi ? Bon, il y a deux explications. C'est les premiers qui sont touchés par le chômage quand ils rentrent sur le marché du travail, et c'est ceux qui ne sont pas concernés par les minima sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont pas, il y a le RSA jeune, il faut avoir travaillé, donc c'est pas efficace pour eux. Et alors évidemment, on peut considérer que c'est des gens qui sont pas autonomes ou qui font des études. Cependant, le nombre, un tiers des SDF est aujourd'hui à moins de 25 ans. Vous voyez, donc finalement, il y a quand même une forte population qui arrive sur le marché du travail tôt et qui ne trouve évidemment pas d'emploi. Quoi.
Est-ce que là-dedans, on a calculé les jeunes qui sont encore à l'école et qui n'arrivent même plus à finir leurs études, parce que c'est tellement cher.
Ben voilà. Alors oui, il y a aussi le cas des familles, mais il y a aussi le cas des familles pauvres, mais effectivement de gens qui sont obligés d'aller travailler et d'arrêter leurs études. Alors ça représente pas une proportion énorme, mais effectivement le fait d'arrêter ses études plus tôt est un facteur aggravant de la pauvreté. Oui. Voilà. Autre chiffre, alors évidemment, là qui est encore minime, c'est qu'en fait on anticipe un possible retour de la pauvreté des vieux en raison des différentes réformes des retraites. Bon, mais on a du mal à ça, on ne sait pas le calculer. Donc parmi les personnes âgées, celles qui sont le plus menacées par la pauvreté sont les femmes de plus de 75 ans, femmes célibataires, veuves, à cet âge-là de leur homme, avec des pensions de réversion qui sont ridicules, et surtout leurs retraites à elles qui sont hachées par des interruptions, notamment dues aux enfants. Voilà. Et donc, bon, c'est pour dire hein, que ces chiffres sont assez terrifiants. Et alors, on peut le faire aussi, on peut regarder un peu géographiquement. Donc géographiquement, par exemple, eh ben, les départements qui sont le plus touchés, c'est le Nord, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, donc en fait le Nord et les départements du sud-ouest de la France. Là on compte un taux de 20% de pauvreté, et c'est effectivement lié principalement à la désindustrialisation, hein, bien sûr. Alors donc ça c'est pas mal hein. Maintenant on peut parler des personnes d'origine étrangère. Donc les personnes d'origine étrangère sont trois fois plus touchées par la pauvreté. Donc le taux augmente à 32% parmi la population d'origine étrangère. Et oui, bah oui, parce que c'est toujours une population qui, en principe, a plus de... dont l'accès aux études est plus difficile. Donc 32% sont concernés par la pauvreté. Les chômeurs, évidemment, sont ceux qui sont le plus concernés par la pauvreté, mais pas forcément, puisqu'on pourrait penser qu'il y a quand même un certain nombre de chômeurs qui touchent des ACDI confortables. Et bien là, évidemment, c'est le taux le fort, c'est 36% de pauvres. Alors toujours selon le critère, c'est-à-dire que 36, c'est des gens qui vivent avec 900 euros par mois ou moins, sachant que il y a aussi la très grande pauvreté. Parmi ces gens-là, puisqu'on parlait des chômeurs, 36%, il y a 1,9 million de travailleurs pauvres.
Hein, c'est terrible.
Donc ça veut dire travailleurs précaires, travailleurs et qui ne sont pas a priori, qui sont pas au RSA socle. Voilà. Évidemment, donc je fais la liste. Donc les familles monoparentales sont le plus touchées. Et enfin les us où là le taux de pauvreté est littéralement explosif. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il atteint, il est largement plus important. Il est au moins à 35%, quoi.
Ouais.
Voilà.
Il faut savoir, dans la pauvreté, c'est les étrangers ou les Français qui vont dans d'autres pays travailler. On leur dit non, vous ne pouvez pas travailler, pour retourner à l'école parce que votre diplôme n'est pas assez valorisant dans notre pays. Il faut retourner à l'école. Ouais. Ça s'appelle la pauvreté aussi.
Alors, voilà, donc ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, il y a aussi un article qui est intéressant, c'est pauvreté et emploi. Donc, c'est-à-dire que l'emploi ne suffit pas à sortir de la pauvreté. Et donc là, on a justement le bilan des politiques sur le RMI et le RSA. Donc, autant le dire tout de suite, en fait, le RMI a réellement été un échec. Hein, et c'est des études donc statistiques sérieuses qui le montrent. Par exemple, sur 18 mois, on a fait une étude sur 18 mois d'un nombre important de RMI, un tiers des RMI sortent du RMI pour aller vers l'emploi. Mais pour la moitié d'entre eux, c'est avec des gains inférieurs au RMI. Vous voyez ? Ça, c'était avant la création du RSA. C'est-à-dire qu'en fait, en retournant travailler, pour un tiers des personnes qui retournent travailler, ils trouveront que des travaux à temps partiel qu'ils toucheront moins que le RMI. Hein. Alors, on a inventé le RSA. Donc, le RSA qui était une super idée, puisqu'il s'agissait d'activer... En fait, ça faisait partie de ce qu'on appelle les politiques d'activation des dépenses passives, c'est-à-dire qu'en fait, on va inciter, d'abord, on va privilégier les gens qui travaillent. Donc, comme ça, il y aura un effet, on va conditionner l'aide au retour au travail et on va inciter au retour au travail. Donc, évidemment, ça n'a pas marché parce que la crise est passée par-dessus. Et donc, en juin 2012, on a un nouveau chiffre, il y a 1,6 million d'allocataires du RSA. Donc, c'est-à-dire 200 000 de plus que 2009. On était à 1 400 000. Et il faut compter 500 000 personnes qui touchent le RSA activité, c'est-à-dire qui travaillent en plus de toucher. Donc, si on prend toutes les personnes à charge, en fait, ça fait 4,5 millions de personnes qui touchent le RSA et donc ça fait donc la moitié des pauvres. Hein. Donc, la moitié des pauvres touchent le RSA. Ça, c'est, voilà. Et tout ça pour dire qu'enfin, la politique qui a été celle du RSA, c'est-à-dire d'activation donc des dépenses passives, elle a conduit à quoi ? En fait, à un blocage des minima sociaux, puisqu'on a préféré une bonne fois pour toutes privilégier ceux qui travaillaient par exemple au SMIG ou les gens qui étaient au RSA et qui travaillaient. Et donc, ça, on sait. En disant ça va inciter à retrouver du travail. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu que entre 2004 et 2008, finalement, les inactifs qui touchaient le RSA ont augmenté. En fait, ce qui signifie très clairement qu'il y a un échec de cette politique d'incitation de retour au travail. Parce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on ne travaille pas et puis faut-il qu'il y ait des emplois.
De ça, c'est que le RSA, quand tu dis à un patron que t'es au RSA, il y en a dit, ah, ça fait trop longtemps que tu travailles pas,
Surtout pas le dire. Et donc, du coup, tout ça pour dire que c'est ces gens-là qui sont les premières victimes, en fait, hein, du fait que leur allocation n'a jamais été revalorisée. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire qu'à la fin, en résumé, il est urgent, si vous voulez, de créer une allocation, de revaloriser, et puis de créer une allocation unique, en fait.
Absolument. Hein. Merci messieurs. Alors moi je voulais parler de Florence, mais je n'aurai pas le temps, donc je reparlerai la prochaine fois. Donc sur le principe de la nationalisation, de la privatisation des entreprises, c'est un sujet très important. Donc merci messieurs d'avoir fait cette émission, merci messieurs dames de l'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine, à dans 15 jours, voilà.
Pour la nouvelle année.
Pour la nouvelle année. Bisous aux filles et poignées aux garçons. Ciao.
Bonsoir.
Bonsoir.